Radio Campus 88.3.
Quelque chose de vraiment très bizarre.
Calmez-vous les
mecs,
parce que
je... Non mais ça fait rien du tout. Ça fait de la musique.
Dans les studios de Radio Campus Orléans, c'est parti.
Jamais ça ne va entendre. Jamais ça.
Ça va fouiller.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. Hello, hello.
On va la refaire celle-là ?
Est-ce qu'on va la refaire celle-là ?
Toujours pas. Toujours pas. Je pense que jusqu'à la fin, tu vas faire cette blague.
Oui.
Ah, oui. C'est déjà prévu dans ta tête. Ouais.
Il est midi sur Radio Campus Orléans, c'est Fatine et vous écoutez Écoute ta fac. Et je suis en studio avec Lucas.
Ah ouais, je croyais que t'allais même pas dire mon prénom et
mais
tout.
Non, je fais pas ça, moi. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Ça va, ouais, ça va.
Ça va, ça va.
Alors, dans le programme aujourd'hui, on a une interview autour d'une pièce de théâtre avec le collectif Les Survenus. Alors, c'était censé se diffuser hier, on l'a dit.
Ouais, on l'a dit hier, mais ça passe aujourd'hui et tant mieux.
Oui, oui, c'est vrai. Ensuite, une petite discussion menée par Lucas sur les rôles féminins marquants.
Marquants, qui nous ont marqué parce que tu vas discuter aussi.
Bien sûr, avec Sémilia aussi.
Avec Sémilia qui est dans les studios juste à côté.
Du coup, les rôles dans le cinéma.
Bah ouais, c'est la semaine pour.
Yes.
Là, parler, revenir un peu sur les rôles marquants féminins qui nous ont marqué soit en général dans notre vie, ou soit plus récemment pour si vous avez des films récemment qui vous ont marqué avec des rôles féminins forts, moi j'en ai. Donc je vais plutôt revenir sur ces rôles-là un peu récents, ou du moins des films que j'ai vus récemment.
Yes.
Mais voilà.
Trop bien. Et bien sûr, la musique, comme toujours. Et on commence avec Insref. De Toulon Hirin. Oh my god.
On peut partir à la mer. Je veux partir à la mer, s'il te plaît.
Je veux partir à la mer aussi.
On part en vacances, on arrête tout et on part à la mer.
Allez, bonne écoute.
Yeah.
time they see a woman with a gun, they're so afraid they begin to shake. They portray themselves as tough guys to the world. They see women as just little things, but one of our women is worth 100 of them.
Réveillé?
Ah mais là je suis réveillé mais de 101%.
Mais
mais il est trop cool le titre.
Ah je sais pas quoi dire.
Fatine elle est scotchée là. Elle en peut plus.
Je sais pas.
Ça change de Harry Styles hein.
Ouf. Ça change trop. Bref. Alors tout de suite, c'est l'interview avec le collectif Les Survenus. Alors, ils sont venus nous parler de leur pièce de théâtre, Le vent acéré qui nous vient du sud. C'est l'histoire, je veux un peu parler de l'histoire parce que j'aime trop. C'est l'histoire de X-Chel qui entend la voix des femmes oubliées, autrice révolutionnaire du journal Nuestra Tribuna, qui pénètre dans son foyer, comportée par le vent. Alors, presque octogénaire, elle décide de donner vie au peu de temps qui lui reste et part à la recherche de sa propre révolution, suivant sans concession cet impératif d'émancipation poétique et féministe. Je vous laisse découvrir cette interview. Aujourd'hui, nous accueillons le collectif Les Survenus, un collectif international basé dans la région Centre-Val de Loire en France, qui réunit des artistes français, argentins et colombiens autour de productions théâtrales contemporaines. Nous sommes rejoints donc par Sophia, Antonin et Sarah. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, très bien.
Très bien.
Ça va.
Très très bien. Et bien, avant de parler de votre dernière création, Le vent acéré qui nous vient du Sud, qui est une pièce de théâtre qui met en avant l'héritage des écrivaines féministes et révolutionnaires oubliées par l'histoire, à travers le personnage d'X-Chel qu'on va découvrir dans cette interview. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire plus sur votre collectif et ses objectifs ?
Eh bien, comme tu disais, c'est un collectif donc, qui est assez nouveau en France, qui est arrivé il y a 3 ans. Quoi. On est tous arrivés plus ou moins il y a 3 ans en France. Et qui a vraiment... on va dire que sa composition internationale quoi, fait vraiment partie de son ADN... aussi artistique, quoi. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à faire dialoguer différentes langues, différentes cultures, différentes références. Et voilà, donc ça informe beaucoup les créations.
Et oui, on est à ce moment-là à notre deuxième création. Du coup, ouais. Après Le vent acéré qui nous vient du Sud, on se lance dans une création un peu plus immersive, encore avec l'idée de se confronter au texte historique. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est à propos de textes de Platon, mais révisité, bien sûr, avec des regards féministes, bien sûr, sur cela. Mais on continue le fil qu'on a commencé, on va parler tout à l'heure, de se confronter au texte historique, aux témoignages de l'histoire, comment on les a reçus aujourd'hui et comment on peut les voir et comment faire entendre des voix souvent invisibles dans l'histoire. Ouais. Ça fait partie de... la démarche du collectif.
Je voulais savoir, c'est quoi l'importance de la langue dans vos créations artistiques ?
Bon, on mélange les langues.
Oui.
Et l'important, c'est qu'on vient de dehors et voilà, on met les langues. C'est pas très intéressant ce que je dis, désolée.
Non, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est une espèce d'honnêteté, on va dire, artistique, dans le sens où dans les répétitions elles-mêmes, en fait, on passe du français à l'espagnol, à l'anglais, mais presque dans la même phrase, quoi, ce qui peut même parfois poser problème.
Oui, c'est sûr.
Mais aussi, c'est quelque chose d'identitaire du collectif, de ne pas dire, OK, on est étrangère, aussi, il y a des collègues qui sont d'ici, mais on ne va pas faire un théâtre français, tu vois.
Oui.
Comme on ne va pas prendre Molière et essayer de faire un truc classique. Donc,
oui,
on mélange les langues, on fait des écritures à nous, originales.
C'est-à-dire qu'il y a un biais, je pense, de l'intégration, entre guillemets, qui vise à polir un peu les différences, quoi. Alors que c'est aussi dans le principe d'un collectif et pas d'une compagnie. De justement pas planifier, aplanir ces différences, mais au contraire d'en jouer, quoi.
Oui. On va un peu parler du féminisme, parce que c'est présent dans votre pièce de théâtre. Comment est-il justement représenté dans votre pièce ? Quel rôle il joue dans le développement des personnages féminins ?
Bon, déjà, c'est l'histoire d'une femme.
Oui.
Et où on prend des autres, où en Argentine, on peut dire que cette histoire féministe a commencé, même s'il y a avant, il y a plus, mais ils sont des anonymes. Donc, et c'est l'histoire d'une femme et très particulière, comme qu'elle est elle va en chemin de son émancipation.
Oui.
Et pour ça, elle prend conscience que, voilà, que cette lutte, il vient de beaucoup plus d'avant.
Oui, elle se nourrit du coup des textes des premières écrivaines en fait qui ont publié dans des journaux en Amérique latine. En fait, les premières écrivaines à être publiées des femmes à être publiées en Amérique latine, c'était des écrivaines anarchistes qui ont écrit dans le journal Nuestra Tribuna, dans le journal Nuestra Protesta, et c'était des premières publications entièrement féminines. Et ces textes-là sont un peu l'élan qui lance cette femme dans la quête de son émancipation. Et, sauf qu'elle se perd un peu dans l'écriture et dans la quête classique des mecs, des hommes, qui vont tenter de vivre une aventure un peu égocentrée.
Oui.
Mais voilà, mais là, c'est voix des femmes qui sont un peu l'élan qui la lance dans son chemin.
Moi, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant aussi quand... Quand Sophia et Sarah ont commencé à amener ce journal, quoi, c'est-à-dire que et même on peut faire le test assez facilement, quoi, quand on demande à des personnes, même aujourd'hui de notre âge, etc., la liste des auteurs sud-américains ou des autrices sud-américaines qui connaissent, il y a quasiment exclusivement que des mecs. Et c'est, enfin, on en discutait avec Zachary, qui est un ami auteur, quoi, et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. En Europe, en tout cas, il y a très très peu. Donc voilà. Donc je pense que ça faisait partie aussi de cet intérêt-là, quoi. En sachant aussi que il y a un autre point, moi, que je trouvais intéressant, c'était, on va dire, la différence entre qu'est-ce que ça voulait dire être féministe révolutionnaire à l'époque et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Par exemple, quand on parle aujourd'hui avec, enfin. Dans Nuestra Tribuna, l'un des conditions pour pouvoir publier dedans était de donner son nom réel, sans anonymat, sans pseudonyme, etc. Alors que un peu plus tard, en Europe, par exemple, l'anonymat sera une garance de protection pour les mouvements révolutionnaires, alors qu'à cette époque-là, c'était l'inverse. Enfin, voilà, ce genre de choses.
Et d'où est venue cette idée de X-Chel, de créer ce personnage
Ces personnages, ça a créé à fur et à mesure qu'on a fait la pièce et à partir vraiment d'un souvenir d'imaginer à ma grand-mère comment une femme qui a resté un peu toute sa vie en train de la femme de mon grand-père et j'imaginais qu'est-ce qui pourrait avoir arrivé si un jour elle elle s'est révélée contre ouais. ça et une autre chose s'est passée de sa vie.
Oui. Et qu'est-ce qui a influencé l'approche, votre approche d'écriture et de la mise en scène pour aborder ces thèmes féministes ?
Bah, je dirais qu'au niveau de l'écriture, une influence qui a été importante, c'est ce mouvement sud-américain oui. du réalisme magique. Mm-hmm. C'est à la possibilité de glisser comme ça de situations très réalistes, très concrètes, à des choses plus fantastiques ou comme si... les métaphores étaient littérales, quoi. Oui. Ça, au niveau de l'écriture, c'est une influence qui a été importante.
Et le terme d'autofiction, ça veut dire quoi exactement ?
Bon, l'autofiction, c'est de prendre des choses de ta vie et de les ramener à la fiction.
Oui.
Basiquement.
Ouais. C'est très basique.
Donc, oui. Comme, théoriquement, qu'il y a plein de théories sur ça, et aujourd'hui, il y a plein de pièces qui parlent de ça, d'utiliser la réalité, mais aussi de jouer avec la fiction et ne savoir exactement qu'est-ce que c'est réel et qu'est-ce que c'est fictionnel. Oui. Et là, dans la pièce, il y a plein de mémoires à moi. Comme...
Oui, c'est ça. T'adaptes sur ta propre expérience en tant que femme pour créer ce personnage fictif et pour parler de choses réelles en même temps.
C'est ça, oui.
Mais, du coup, comment peut-on lier l'histoire d'Ixchel avec les femmes du monde entier ? Parce que moi, vu que j'ai vu déjà la pièce et que j'adore trop,
merci.
je m'identifie avec Ixchel, même si je ne suis pas écrivaine, je ne viens pas de l'Argentine. J'ai trouvé des petits moments, des petites expériences de ma vie en Ixchel. Du coup, comment peut-on lier cette histoire d'une seule femme à tout un monde féminin ?
Moi qui, du coup, suis à l'extérieur de la autofiction de Sophia, qui m'identifie quand même avec l'histoire, parce qu'on l'a... Enfin, on l'a mis en scène ensemble et on a passé par des moments avec le texte ensemble. Mais, et tu nous diras aussi, ça sera intéressant d'entendre comment tu t'as identifié avec la pièce. Et je pense que je m'ai identifiée beaucoup sur cette question de, ok, on a tous cette sensation qu'il y a une énorme absence de représentation des femmes dans l'histoire littéraire, dans l'histoire, et qu'on a toute une sensation de, il faut s'émanciper.
Oui.
Mais pour moi, ce personnage, il est encore dans la question de, mais comment, quoi faire, quel chemin faire. Et du coup, elle tente de différentes tentatives, et très littéraires aussi. Je pense que pour beaucoup de femmes qui vont voir cette pièce, et les mots et les paroles sont comme une espèce d'arme à travers laquelle on va chercher l'émancipation, non ? C'est, y a des gens qui peut-être vont prendre action dans des mouvements très, très engagés de manière physique, et peut-être dans leur travail, dans différents moyens. Et je pense qu'au moins pour moi, il y a cette possibilité de la parole, de comment écrire les femmes, comment les décrire et comment sortir... Enfin, c'est une chose dont on parle dans la pièce, comment sortir de cette image des femmes qui s'était construite dans une littérature très masculine. Et moi, je m'identifie dans cette, avec Ixchel dans cette nécessité d'écrire sa propre histoire, de parler elle-même de son histoire de femme et de reconnaître que ça n'a pas commencé par elle et qu'elle a une énorme dette envers des femmes qui ont fait des avancées énormes. Et du coup, comment réécrire cette histoire sans tomber un peu dans le mythe de la grande femme, que ça serait une copie du mythe du grand homme.
J'ajoute une chose à ça, que dans le personnel, dans la pièce, il y a non, ces moments de la vie comme, que chez plein de femmes nous est arrivé, que maintenant il est en train de changer beaucoup, et on a beaucoup de références des femmes dans la littérature et partout. Mais quand j'avais 17 ans, et tous les symboles de la liberté, de pouvoir voyager toute seule, d'être quelqu'un dans le monde, c'était tous des mecs. Donc moi, j'ai lissé seulement des littératures, des hommes. Il y avait tout le temps ces contrastes de dire, moi, je vais être comme eux, mais en même temps, est-ce que je pourrais
Et aussi, j'ajoute une chose sur la manière dont c'est joué par Sophia, qui, enfin, qui pour moi c'est une super actrice.
Qui est géniale.
Ouais. Et qui se permet d'incarner des personnages féminins, oui, et masculins, oui, et peut-être ambigus, de manière très libre. Et je m'identifie dans le sens où quand j'étais petite et que je voulais être actrice, je voulais être acteur, parce que c'était les acteurs, ouais, qui avaient la possibilité de jouer avec, mm-hmm, des personnages, mm-hmm, comme ça. Mm-hmm. Et donc, bon, il y a aussi une identification de ces rêves de... Oui. De personnifier différentes choses.
Oui, je voulais aussi savoir comment tu fais pour jouer tous ces personnages-là, pour d'aller d'une jeune fille à une vieille dame à un mec. Comment tu fais de sauter de personnage à personnage en une seconde ou deux?
Et ça, c'était un travail ensemble avec les metteurs en scène et la metteuse en scène, de faire, de travailler chaque personnage. Et comment je peux expliquer ça, je ne sais pas, mais...
C'est de la pratique.
C'est la pratique, oui. Mm-hmm. De travailler chaque personnage, de savoir sa façon de penser, d'être. Et après, voilà, c'est de pratiquer, de bosser beaucoup. Rien de magie.
Je veux aussi parler un peu de la scénographie. Pourquoi une scénographie si minimaliste pour autant de personnages et autant d'époques de vie?
Bon, il y a un petit quelque chose. La version que tu as vue, du coup, c'est vraiment la version, ce qu'on appelle la version lecture. Mmh. Dans la version théâtre, enfin, au plateau, qui sera présentée le 21 mars au Festival, mmh, à Orléans,
Festival, oui,
la scénographie est un peu plus fournie. Mmh. Ce qu'on a fait dans la lecture, c'est un petit peu ce dont on parlait pendant les ateliers, c'est qu'on a condensé, on va dire, la scénographie à un élément, mmh, qui pour nous est l'élément symbolique ou central, quoi, en tout cas le plus parlant dramaturgiquement, qui est du coup cette espèce de mur fait de matériaux d'archives, de journaux, etc. Et qui pour nous faisait référence aussi justement à cette espèce de magma passé, quoi, de magma de voix, de témoignages, de personnes en fait qui ont projeté sur les générations futures une espèce d'utopie ou de libération possible, mmh, etc. Et en tout cas, pour moi, que je reçois comme une responsabilité, enfin comme quelque chose, voilà, il faut répondre à des personnes qui ont espéré, oui, que nous, on fasse quelque chose. Donc, du coup, mm-hmm. Et ça, voilà, ça a été une espèce de transposition plastique par rapport à ça. Quoi.
Et dans la pièce, du coup, si vous allez voir la pièce, la scénographie, elle prend beaucoup plus de, mm-hmm, de place. Et mm-hmm. Cet aspect aussi de journal, il revient beaucoup, avec plus d'ampleur dans la pièce.
On fait un petit rappel de date de la pièce. C'est le 21 mars, c'est ça?
Oui.
Et c'est où, le lieu?
C'est à la MAM, à la Maison des Arts et de la Musique, mm-hmm, d'Orléans, à 19h30.
Oui, ouais. C'est gratuit.
Ouais.
Et vous pouvez réserver par téléphone.
Et je conseille vivement, d'aller le voir.
Et il y aura juste après la pièce, il y aura un petit bord-plateau, c'est-à-dire justement, oui, un temps où on pourra échanger avec le public, etc. Mm-hmm. Voilà.
Parfait. Et... pour un petit message de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes d'aujourd'hui, en tant que femmes?
Et voilà, que la lutte continue.
Oui.
Que les choses, ils sont en train de changer.
Ouais.
Et à moi, c'est le seul truc qui me donne l'espoir, c'est la lutte féministe. Donc, ouais, on continue.
C'est vrai.
Et merci à toi pour ton intérêt, Fatima.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Merci.
Une ligne moins droite que la dernière du soir, la goutte qui fait surgir la soif. Je me perds dans mes dires, vous savez quoi? Rien, et c'est bien mieux comme ça, laissez-moi parler au roi. Je lui dirai tout ce que je sais dans la cour, c'est le désastre va voir. Et je t'assure que j'ai essayé de mettre de l'ordre dans le désordre lui-même. À chacun son sort, ici les sorcières sont reines, démarre au quart de tour. Vas-y, je surveille tes arrières, j'ai voulu prendre un détour. Je suis tombé sur des barrières et je goûte à botte semblant de belle fille. Elle est malheureuse, mais elle rit. Je suis le silence qui fait du bruit, le dégoût qui donne envie. Tu me demandes pas si je vais bien, finalement t'es peut-être mal, hein. l'habitude de dire que je fais rien, la routine a ses vices, hein. La bouteille est ouverte trop tard, je me balade tel un globe trotteur. Les M6 baladent sur le trottoir, de mes verres ils ont bien trop peur. Il manque de femmes dans le rap français, je pense qu'il y a trop d'hommes dans le rap français qui parlent mal des femmes, je viens les éduquer et leur apprendre ce qu'est le respect. Comme dit un ami, chacun ses combats, pas tant à perdre. Moi je veux rendre fier, la Randa, toi tu veux vendre de l'herbe. Et fier de tes GAV, je suis fier de dire que j'ai appris, tu me feras plus danser la Java. Ness Roy à la fête est finie. Mais qu'est-ce qu'une pluie de plus quand c'est la centième de l'année? Ce pardon n'est qu'une ruse. Si t'as prévu de recommencer, certains rappeurs se répètent. C'est peut-être qu'on n'a pas été compris. À quoi bon faire la fête quand nos comptes en banque sont vides? Sensei, l'argent c'est rien. On peut faire tellement de choses sans lui. Coincé par mon destin, j'ai l'envie plus gros que mon profit. À défaut d'être invisible, j'ai parlé de toi, j'ai parlé de lui. Je balance des rags aux médiatiques d'un imprénac à bien se tenir. Uns sont bien meilleurs que les autres. Un acte reconnu comme une faute. Je me cache dans mon jardin de roses. Les épines ont déchiré mon cosse. Je me fais pas confiance. Et t'as bien raison, mon pote. Je suis la reine de la finance. Des milliers de pièces en poche. Faut des punchlines pour percer ou payer des publicités. Faut du succès pour chuter. Faut des je t'aime pour détester une fois de plus. Je suis l'effort, un factus. Femme, t'es mort, tu payes tes factures. Un lingot d'or, je me torture à écrire l'ordre. Donne-moi une minute pour t'expliquer que je vaux mieux que ça. Quand je serai connu, vous répondrez à mes messages. Ce monde est tordu. Et je suis pas la première à l'écrire. Comportement adulte. Pour certains, c'est juste de passage. Je me paye du mani alors que j'ai même pas les moyens. Le rap m'amène à l'Amérique. Que voulez-vous? Je lui ai dit oui, hein. Heureusement, je sais partager la cour royale, c'est ma cure. Donc quand je dirai oye, oye, vos oreilles, vous allez ouvrir. Je me paye du mani alors que j'ai même pas les moyens. Le rap m'amène à l'Amérique. Que voulez-vous? Je lui ai dit oui, hein. Heureusement, je sais partager la cour royale, c'est ma cure. Donc quand je dirai oye, oye, vos oreilles, vous allez ouvrir. Comme dit un ami, chacun ses combats, pas tant à perdre. Moi, je veux rendre fier la Randa. Toi, tu veux vendre de l'herbe, fier de tes GAV. Je suis fier de dire que j'ai appris. Tu me feras plus danser la Java. N'est-ce rien, la fête est finie. Comme dit un ami, chacun ses combats, pas tant à perdre. Moi je veux rendre fier la Randa. Toi tu veux vendre de l'herbe, fier de tes GAV. Je suis fier de dire que j'ai appris. Tu me feras plus danser la Java. N'est-ce rien, la fête est finie.
C'était Roya de Sensei H.
Très très cool.
Très très cool, ouais.
Et je viens d'y repenser puisque là on retourne au studio, mais
yes.
Faut qu'on pense à réserver nos places.
Ah oui, pour la pièce de théâtre, ouais.
Et on conseille vivement aux auditeurs et aux auditrices de faire de même.
Yes, yes, yes.
Toi, tu avais vu la lecture.
Oui, et c'est trop, trop
quand,
bien.
Quand la troupe est passée au bouillon.
Au bouillon.
Mais du coup, moi, j'ai très hâte de voir la pièce avec une autre, comme ils en ont parlé, avec une autre scénographie, une autre mise en scène.
Ouais.
Donc j'ai très très hâte. Du coup, c'est le 21 mars.
Trop aimé. Oui, c'est le 21 mars.
21 mars, pour rappeler les dates.
À la
MAM, à 19h30. Voilà, il suffit d'appeler.
Le numéro, c'est sur site, c'est sur Instagram.
Sur le site, voilà.
Ouais.
Tout est sur leur Instagram.
Ouais.
Donc venez. En plus, c'est gratuit, donc que demander de plus?
Yes.
Donc vraiment, go.
Et du coup, c'est l'heure de l'Orléans Masters Badminton.
Plus Orléans. 88.3 FM.
Cette année, la rédaction de Radio Campus Orléans revient pour une deuxième édition de ses journées des droits des femmes et de l'égalité des sexes et des genres.
Aphrodite. Au programme, plus d'une quinzaine d'émissions à retrouver en direct et en podcast du 4 au 10 mars 2024.
Aphrodite.
Pour découvrir cette programmation militante qui donne la voix à celles qui ne l'ont pas encore assez.
Aphrodite.
C'est sur Radio Campus Orléans 88.3 FM en radio numérique terrestre et sur orléans.radiocampus.org.
Radio Campus Orléans.
www.orléans.radiocampus.org.
Radio Campus 88.3 FM.
Du 12 au 17 mars au Palais des Sports, venez découvrir les 5 disciplines du badminton à l'occasion de l'Orléans Masters Badminton présenté by Vitor.
programme, plus de 200 matchs opposant les meilleurs joueurs et joueuses du monde entier qui tenteront de gagner les derniers points pour la course aux Jeux Olympiques et des animations avec le village du badminton au Parc Pasteur. Plus d'infos et réservations sur orleansmasters.com.
Radio Campus 88.3 FM.
Et oui, c'est l'heure de gagner.
De gagner des places comme chaque midi depuis une semaine maintenant.
Yes. Et on fait comment pour gagner ?
Et bah, tout simplement, dans un instant, on va vous dire le code secret.
Yes.
Et puis, on a les auditeurs et auditrices auront juste à aller sur le site de Radio Campus. Je rappelle simplement les conditions sur le site, sur la page d'accueil du site de Radio Campus Orléans. Vous avez une petite rubrique concours. Il suffit de cliquer dessus et de rentrer le code dans un formulaire qui est présent directement. Donc, et puis, de rentrer le code et quelques informations.
Et il reste encore trop de places pour gagner.
Il reste encore des places, oui, en effet. Ouais. Toujours, je rappelle, 18 places à gagner en catégorie 1, donc les meilleures places, ouais. Tout devant pour vivre des matchs yes. Dingues, quoi.
Yep. Et c'est quoi le code magique ?
Le code magique d'aujourd'hui, c'est Aphrodite 6. Mm-hmm. Donc, tout en minuscule, Aphrodite avec un S, 6. Donc, à vos ordinateurs. À vos sites de Radio Campus Orléans et puis let's go.
Good luck.
Sessuale sia un lavoro facile. Dicono che il lavoro sessuale sia un lavoro facile. No, amo, quando vai a lavorare letteralmente imbracci le armi per combattere il patriarcato nel suo campo di battaglia per eccellenza. Il sesso e le relazioni di potere che lo governano. Alla gente piace sparare percentuali su quante donne siano sfruttate nel lavoro sessuale, parlano di prostituzione, parlano di denigrazione della loro dignità. Però se dovessi sparare una percentuale io direi che il 100% delle persone a cui piace farci vergognare per il lavoro che facciamo non hai idea di che cosa significhi lavorare con il sesso, lavorare con il sesso, lavorare il sesso, 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 lavorare con il sesso. E mentre cercano di mettere in ridicolo me e le mie compagne, chiaramente non vedono il ridicolo del concentrare tutta l'attenzione sulle femmine che lavorano col sesso, mentre non sprecano una parola di indignazione verso gli uomini che a quanto pare non possono fare a meno di soffrire dei nostri servizi e che sono capaci di tirare fuori centinaia di euro in un giorno, in nero, purché lì si sventoli il culo in faccia per una giornata intera. Chiaramente, visti i loro profili, si chiederanno ma che ci fanno questo a fare sto lavoro? E invece io mi chiedo, perché non ci chiediamo che ci fa questo uomo, che ci fanno questi uomini a spendere una fortuna, centinaia di euro in un giorno, per avere tre fighe in una sala di albergo che gli sventolano il culo in faccia mentre hanno raccontato a loro moglie e ai loro figli che stanno non si sa dove per un importante impegno di lavoro. Ecco, questo per me è il ridicolo del patriarcato. Alle femmine si dà l'importanza, si dà la responsabilità di tutto ciò che gli uomini sanno fare male e di tutto ciò di cui in verità anche gli uomini, soprattutto gli uomini, sono responsabili. Con il lavoro sessuale ho imparato che è meglio non parlare di cose che non hai provato sulla tua pelle e che evidentemente non sei in grado di osservare a fondo. Bisogna portare rispetto
femmine che fanno questo lavoro, perché siamo molto più a posto di tanta gente con cui abbiamo a che fare con il nostro sporco lavoro. E c'è una differenza tra sfruttamento e lavoro fatto con consenso. Per me è una sorta di riparazione. Per me quando vado a lavorare mi sento come se... Sì, la sento come una forma di riparazione per tutto ciò che il patriarcato mi getta sulle spalle senza che io l'avessi mai desiderato. E per il fatto di avere questo corpo, un corpo di femmina, il mio destino dal primo giorno in cui sono nata è già segnato. Mi devo accollare la fragilità dei maschi tossici, mi devo accollare la loro incapacità di rispettare corpi come il mio. E secondo me il lavoro sessuale è la dimostrazione più eclatante del ridicolo del patriarcato. E si parla tanto di denigrazione delle donne perché vendono il proprio corpo, corpo. Tanti dicono che col lavoro sessuale ti svendi, che sei sfruttata e abusata. Dicano quel che dicano. Io sono stata molestata lavorando in un ristorante, pulendo i panni del centro commerciale, lavorando in un parco divertimenti, non lavorando col sesso.
Vous venez d'écouter Cuerpo de Sarah Brown et tout de suite, c'est Midi Minuit de Blue Jasmine.
Fuck avec des sentiments. Chaque fois de l'argent, je fais l'éloge.
Midi Minuit. Doucement. On fume la cache. On fume la frappe. Plus que la mort. Mais un jour j'ai dit je fuck les love. Chaque fois de l'argent je fais les loches. Dans CV j'écris je veux les lofer. À midi, minuit, non. Oui, un jour j'ai dit je fuck les love. Fuck avec des sentiments. Avec toi je pense pas qu'à la monnaie. Qu'elle préfère à l'oreille, je Tu sais que ma poussie parle français par ici lentement. En vrai, je le sais, je me sens dépassée, limitée, number one. Et si c'est ça dont la lune parlait, j'avoue, je me laisse aller. On fera du bouchèque. Couvre-moi de billets de banque, habille-moi de ice, on chante mon rich babe. Ta playlist en replay, à la fin, je veux une tape. Appelle-moi le snack. Chalante sur mes fesses. Fasciné quand je danse, on est dans la soucoupe. Attention aux secousses, c'est nos sons qu'on écoute. De son cas que je m'occupe. J'ai dit vitesse, on passe les vitesses. Quand on quitte système, ça me rend obsesse. J'ai dit vitesse, on passe les vitesses. C'est parti, ça décolle, mais pas sans moi. De midi à minuit dans l'atmosphère. Une ambiance à gravité sidérale. Entre nous y'a rien de normal. Un exercice immersif. Entre nous y'a rien de normal.
C'était Selva Blues de Perola Branca. Et on est avec Alexia.
Ouh.
Et Cémilia.
Hello.
Et toujours Lucas.
Coucou.
Et toujours Lucas. Il est toujours là.
En tout cas, pour la semaine Aphrodite et à quelques jours de la journée des droits des femmes, on est quand même plus de femmes
que
dans le studio.
Represent.
Exactement. Donc, bravo à nous. On est géniaux.
Yes. Girl power.
Spice up your life.
Je connais pas.
C'est un réflexe. Quand j'entends girl power, je chante les Spice Girls.
Who run the world? C'est la seule que. Non, c'est pas elle.
Ça, c'est Beyoncé.
Who run the world? T'as dit quoi?
Who run the world?
Ah oui, ça, c'est Beyoncé. Mais c'est très cool aussi.
Mais attends,
oui.
Les Spice Girls, c'est quoi? Déjà, leur titre le plus connu.
Tell you what I want, what I really
want.
Et il y a Spice up your life aussi.
Oui.
Ok.
Et bah, à toi, Lucas.
Ah, ça, on me lance la main comme ça. Mais est-ce que, Cémilia, tu voulais revenir d'abord un peu sur l'émission de lundi que vous avez fait?
Oui, pourquoi pas. Bah, ouais, non, lundi, avec l'équipe d'Écoute ta fac du lundi, Anaïs et Arthur et moi-même, on a parlé des portraits de la femme dans le cinéma, donc notamment des héroïnes qui nous ont marquées. Justement, on va pouvoir en reparler là. Mais moi aussi, j'avais fait une petite chronique sur la condition de la femme dans le milieu du cinéma. Donc, tout ce qu'il y a autour, le chantage, les agressions sexuelles et tout. Mmh. Et après, on avait terminé avec un petit blind test sur les chansons des princesses Disney. Pas des Disney en général, mais plus les princesses. Mmh. Et c'était vachement sympa. Ouais.
Trop cool.
Et bah, moi, j'ai eu cette idée ce matin de revenir sur les personnages, les rôles qui nous ont marqués. Mm-hmm. Moi, j'en ai plein, j'en ai quand même plusieurs. Mais vous, est-ce que vous avez pu en choisir quelques-unes?
Alors moi, j'ai rien du tout pour l'instant.
Ça deviendra peut-être au fil de yes. notre discussion. Ouais. Mais on en a une un peu en commun avec Alexia, c'est Olivia Colman.
Ouais, Olivia Colman qui ces dernières années a joué dans beaucoup de films très intéressants.
Très fort.
Très fort. Moi, je l'ai découverte dans Broadchurch, une série policière assez classique britannique où elle joue le rôle d'une des policières qui mène une enquête sur un enfant assassiné. Voilà, une série que je recommande. Et donc, c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Et je suis assez contente de la voir dans des rôles plus importants. Dans des rôles plus reconnus, parce que c'est vraiment un personnage à part entière. Elle joue aussi dans Fleabag, où elle a un rôle absolument génial d'une belle-mère passive-agressive à souhait et qui est hilarante. Voilà, Lucas, toi aussi, tu l'aimes bien.
Et notamment en rôle marquant dans La Favorite qu'on a vue ensemble,
ouais.
dont elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice quand même. Donc c'est une distinction honorable et totalement... totalement prouvé, quoi.
Ça, c'est mérité.
Mérité.
Et tu veux dire que les autres nominés ne méritaient pas l'Oscar?
Non, pour sa carrière, je parle de sa carrière. Oui.
Et c'est marrant, on peut appeler ça un peu un late bloomer, parce qu'elle a quand même été connue. On a beaucoup d'actrices quand même qui se plaignent à juste titre de pas avoir de beaux rôles en fait passé un certain âge. Et elle, en fait, justement, j'ai l'impression que les meilleurs rôles qu'elle a eus, c'est justement à la quarantaine, cinquantaine. Et ça arrive pas très très souvent en fait dans le milieu du cinéma, donc c'est plutôt intéressant.
Moi, je l'ai découverte avec The Father de Florian Zeller, où elle jouait avec Anthony Hopkins, un monsieur qui âgé et qui perdait de la vie, quoi. Et du coup, c'était... Enfin, non, je sais plus...
Non, c'est la manière dont il a dit, il perd la vie.
Il perd la vie, tout simplement, avec des problèmes, enfin bref.
Donc il y a des problèmes de santé, quoi.
Problèmes de santé. Et du coup, elle avait, enfin moi, c'était, de mes souvenirs, c'était la première fois que je la voyais à l'écran. Et elle était juste parfaite, quoi, de cette femme qui doit s'occuper de son père, etc., avec tous les problèmes qu'on peut imaginer autour. Et du coup, la dernière fois que je l'avais revue, c'était justement avec c'était avec Empire of Light, où elle jouait une employée dans un vieux cinéma anglais sur une ville côtière, et une femme qui avait des problèmes mentaux notamment, et c'était aussi très très fort, en plus de l'image du film qui était très belle, etc. Film de Sam Mendes, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est celui qui a fait 2-3 James Bond, je crois, 2 ou 3.
Mmh. Les Noces Rebelles.
Les deux derniers, Les Noces Rebelles. Mmh. American Beauty, je crois qu'on cherchait déjà la dernière fois. Et bref, dans Empire of Light, de très beaux rôles. Donc ces dernières années, je trouve que c'est une actrice qui est très marquante, très très marquante. Donc voilà.
Et dans la favorite aussi, on peut parler de Emma Stone. Emma Stone. Quand même, qui a tout fait, je trouve. Alors déjà, elle a quand même l'honneur de ne pas être une nepo baby, ce qui est quand même assez rare à Hollywood.
C'est quoi une nepo baby?
C'est un fils d'eux, une fille d'eux.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, elle a commencé sa carrière petit à petit. Elle a joué dans un épisode de Malcolm. Après, elle a joué dans des comédies un peu teenage movies. Et pour arriver à jouer Cruella dans un gros film et à jouer dans La Favorite aussi, dans La La Land, où elle a eu déjà un Oscar assez jeune. Elle fait des films super variés et moi je la trouve assez cool, assez incroyable à chaque fois.
Et faire le rapport avec un film récent, avec du coup Pauvre Créature, Poor Things,
qui est assez beau.
Qui est assez beau.
Et d'ailleurs, je pense que sa prestation, c'est le truc le plus intéressant du film.
Ah ouais, mis à part l'image et la bizarrerie de l'image qui est assez intéressante. Ouais. Au niveau,
la photographie est très belle aussi.
Au niveau prestation, elle est impressionnante de justesse. Parce que,
C'est assez loufoque. Ouais.
Ça sort un peu des sentiers battus qu'on pourrait imaginer d'un rôle classique comme dans La La Land.
Que moi je n'ai pas vu.
Je crois que je ne l'avais jamais fini, mais c'était un rôle classique de comédie musicale, etc. Là, c'est un rôle qui est totalement loufoque.
Mais ces deux rôles travaillent beaucoup le corps, en fait.
Ouais, là, pour le coup, il y a une chorégraphie de gestes, etc., qui est, dans une chorégraphie de gestes qui est remarquable.
Une gestuelle.
Parce qu'une gestuelle, on en a déjà parlé dans l'émission de cinéma, mais une gestuelle enfantine. Qui est assez bluffante.
Et qui évolue en fait petit à petit. Ça évolue petit à petit jusqu'à ne plus l'être en fait.
Mais totalement, et du coup on suit sur 2h30 je crois.
On suit cette progression
on
en fait.
Progression.
Et c'est très. Disons, c'est très doux quoi. C'est-à-dire que voilà, elle progresse. Parce que bon, si on peut rappeler l'histoire, c'est quand même quelqu'un qui a un esprit d'enfant dans un corps d'adulte. Et donc, en fait...
J'irais même plus loin en disant un cerveau d'enfant...
Oui, mais... Spoil.
Cerveau. Voilà. J'essaye,
Lucas. Mais bon, merci.
Oupsies.
C'est pas grave. Mais non, mais du coup, en fait, voilà, tout est... C'est comme un roman initiatique. C'est un apprentissage. Hop, tu pars d'un point, t'arrives à un... Tu reviens un peu au point de départ, mais tu as évolué parce que tu as appris de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses passent aussi par l'appropriation de son corps, etc. Donc c'est plutôt et elle le joue très 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 doucement en fait, et donc c'est discret mais efficace.
Moi je trouve que c'était en même temps très ça prenait son temps, mais en même temps en passant par des étapes très dures, notamment l'étape de Paris qui est une étape assez dure,
mais je parle plutôt de la façon dont on voit ses mouvements changer en fait.
Mais en contradiction avec des événements assez durs, je trouve.
Moi, on recommande ce film.
Ah ouais, mais totalement.
Et il est disponible sur quelle plateforme?
Alors, il est sorti au cinéma.
Ah oui, donc
il est sorti récemment au cinéma.
En 2023, c'est ça?
Fin 2023, début 2024.
2024. Il est sorti en janvier.
Ouais, parce que je pense qu'il a été diffusé dans des festivals avant, en fait. Et donc, mais nous, on l'a dû le voir en janvier.
Ouais, moi, je me souviens de janvier.
Il est toujours dans le cinéma ?
Non.
Non, malheureusement.
Peut-être une ressortie après les Oscars, s'il gagne des prix, mais ça me m'étonne.
Oui, parce qu'il en a déjà gagné pas mal. Hein, pas mal Golden Globe, BAFTA.
Golden Globe, ouais, ça a bien marché.
Ça marche bien, donc c'est possible que ça ressorte. Moi,
avec une nomination assez claire. Pour Emma Stone, la meilleure actrice qui est un peu assez leadeuse pour ce prix cette année-là. Donc voilà, on verra ça. Les Oscars, c'est dans pas très longtemps. C'est dans quelques semaines. On verra ça à cette date-là. Mais je pense qu'elle est très bien partie. Je ne me rappelle plus des autres nominations. Mais ça paraît assez clair quand on voit son jeu dans le film qui est
c'est la favorite.
C'est la favorite.
Blague.
Non, du coup, Fatine, toujours pas de...
Non, mais en fait, je viens de réaliser, je suis nulle en film. Je regarde pas de film. Et même si je les regarde, je me rappelle plus. Ni des noms, ni des acteurs, actrices. C'est pas grave.
Bon, c'est pas grave.
moi, je voudrais parler, si on a encore un peu de temps, plus de personnages plus que d'acteurs d'actrices. Il y a plein de personnages, moi, avec lesquels j'ai grandi à la télévision. Par exemple, j'étais très fan de Buffy contre les vampires. Personnage incroyable, surtout. Alors. Un peu entaché maintenant, enfin le personnage n'est pas entaché, hein, mais parce que c'était quand même une série créée par Joss Whedon, hein, et qui est quand même pas connu pour être le mec le plus féministe de l'univers finalement.
Pourtant Buffy contre les vampires, c'est
malgré le contenu en fait.
C'est ça, c'est féministe pour l'époque justement. C'est
ouais. Et ce personnage est incroyable. Moi j'ai grandi avec ça, je regardais la trilogie du samedi, c'était mon rendez-vous quoi. Une femme forte qui a besoin de personne à part de ses amis. Une grosse parité dans le casting pour cette époque-là, c'est assez impressionnant. Après, on peut aussi parler de Scully dans X-Files, qui est aussi un personnage fort dans les années 90. C'était pas une époque qui mettait tellement les femmes en valeur.
C'est vrai,
parce qu'à côté de ça, on avait aussi la série Charmed, où t'étais censée avoir affaire à des sorcières très puissantes, très intelligentes. Mais les scénaristes aimaient bien les mettre un peu à moitié à poil la plupart du temps. Quoi.
Ouais.
Ce qui n'était pas forcément le cas des autres séries que j'ai citées avant. Et donc, moi j'ai grandi un peu avec ces modèles-là que je trouve cool. Maintenant, il y a tellement de choix en série et il y a plein de personnages hyper cool. Hyper cool, hyper puissants, hyper forts, qui n'ont pas besoin de passer par un traumatisme quelconque pour devenir une femme forte, parce que ça, on le voit beaucoup, surtout dans le cinéma. Ah, ça y est, elle devient forte parce qu'elle s'est fait agresser, parce que il fallait en passer par là. Non, il ne faut pas en passer par là pour être une femme forte.
C'est vrai.
Et heureusement, ce male gaze, ce regard masculin, s'estompe de plus en plus.
Ouais.
Mais y a quand même des époques où il y avait des choses intéressantes.
C'est vrai.
Même écrites par des hommes.
Mmh. Il y a aussi Meryl Streep qui...
Streep.
Ouais. Ok. qui parlait qu'on donne souvent des rôles de sorcière, de femmes agressives aux
folles.
Aux actrices qui sont un peu plus âgées, qui sont pas jeunes pour être.
Ou de mère.
Ouais, c'est ça.
Voilà, avec qui ont un enfant qui a quasiment le même âge, mais.
Oui.
c'est il y a des dingueries comme ça. Je crois que c'est dans Forrest Gump. Alors après Forrest Gump, ça se passe sur pas mal de temps, mais je crois que Sally Fields, je crois, qui joue la mère de Forrest Gump, donc de Tom Hanks, je crois que dans un film qu'ils ont fait la même année ou l'année d'avant, elle jouait sa femme. Enfin, et là, elle jouait sa mère. Enfin, il y a des trucs comme ça, un peu bizarres. Où tu te dis, par un certain âge, ils savent pas quoi en faire, mais les femmes vivent toute leur vie comme les hommes, en fait.
C'est vrai.
Il y a pas de raison.
Et puis quand il y a du talent, ça m'étonnerait que ce soit un jour, tu passes la cinquantaine, t'as plus de talent.
Non, ça ne s'explique pas. En fait, c'est juste que c'est pas bankable. Ils pensent que ça gagne pas assez d'argent. Ouais. Et je trouve que les rôles d'Olivia Colman ou d'autres actrices comme Meryl Streep prouvent le contraire.
Je pense à Frances McDormand,
qui
a joué dans Nomadland. De Chloé Zhao, qui a gagné aussi pas mal de prix aux Oscars, qui est fabuleuse.
Réalisatrice,
mais qui est fabuleuse, alors que... elle est tout le temps... Depuis Fargo...
Depuis Fargo, ouais.
Fargo, elle est très, 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 très marquante aussi.
C'est vrai. Et ben on termine...
Et ben on termine sur ça.
Sur ça.
Sur cette bonne note.